sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Mardi 16 octobre 2012, sous la coupole de l'Institut de France, a eu lieu la première séance solennelle de remise des prix 2012 de l'Académie des sciences. À cette occasion, Yves Agide, membre de l'Académie des sciences, a prononcé un discours intitulé « Subconscience et cerveau », dans lequel il explique les origines et le rôle de l'inconscient chez l'homme, ainsi que les différents dysfonctionnements inhérents à des maladies touchant le subconscient. Retrouvons dès maintenant Yves Agide.
Subconscience et cerveau, monsieur le chancelier, madame, monsieur, monsieur le président, chers confrères, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous vous rendez de temps en temps place de la Concorde à 6 heures du soir au milieu des encombrements. C'est une situation qui m'arrive de temps en temps. Et je ne sais pas comment je ne rentre pas dans toutes les voitures et comment je n'écrase pas mes concitoyens. En fait, je suis assez efficace dans cette voiture. Je tourne mon volant, je freine, je débraye. Autant de mouvements auxquels je ne prête pas attention, qui ont l'air de se faire tout seuls. Ce sont des mouvements automatiques. Tout se passe comme si il y avait une sorte d'intelligence tacite qui fasse que je m'adapte automatiquement à l'environnement. En quelque sorte, ces mouvements, je ne pense pas que je les fais, mais je les fais, mais de façon automatique. Je ne pense pas que je fais, je ne pense pas que je ressens, je ne pense pas que je pense, et pourtant, je fais, je ressens et je pense, mais de façon automatique. Je le fais de façon subconsciente, monsieur le président. Pourtant, sur cette place de la Concorde, je peux changer de comportement. Il suffit que je le décide. Par exemple, exaspéré, je peux sortir de ma voiture, fermer la porte de la voiture, laisser la voiture en place et rentrer chez moi à pied. C'est un comportement préconscient. Dans cette situation, je ne pense pas que je fais, que je ressens ou que je pense, mais je fais, je ressens ou je pense, mais cette fois-ci de manière non automatique. Je m'adapte à une situation nouvelle, à un environnement qui change. On est dans le domaine de la préconscience. Et puis, ce jour-là, je peux avoir une réflexion sur mon comportement. Je peux me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire à 6 heures du soir, place de la Concorde ? À ce moment-là, j'ai une réflexion sur mon comportement. J'ai une pensée sur une action. J'ai une pensée sur une pensée. La conscience. La conscience, c'est je pense que je fais, je pense que je ressens, je pense que je pense. Je peux même dire que je pense que j'existe. La conscience. Conscience, préconscience, subconscience, trois aptitudes mentales absolument essentielles. À quoi servent-elles ? Notre cerveau reçoit en permanence une énorme quantité d'informations. Dans le temps, dans l'espace. Ces informations sont emmagasinées dans le cerveau. C'est un stockage qui est extrêmement bref en état de conscience. Songez-y quelques secondes, quelques minutes par jour. Réfléchissez le temps que vous passez à être dans un état de conscience. Période plus prolongée pour la préconscience, parce que je suis obligé de m'adapter en permanence, pas en permanence, mais bien souvent, à la situation environnementale. Période permanente en cas de subconscience. Lorsque je suis subconscient, je le suis tout le temps. Par exemple, en ce moment, j'essaye de concentrer ma pensée, mon attention sur ce que je suis en train de dire dans cette assemblée distinguée. Et puis, vous voyez, j'agite les bras, mon larynx bouge, ma langue et ma bouche émettent des sons. Tout ça, c'est autant de mouvements qui sont absolument automatiques, involontaires. Ils ne sont pas involontaires, ils sont volontaires, mais ils sont automatiques. Eh bien, dans cette situation, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Dans notre cerveau, la subconscience, qui est à la fois permanente, qui est ubiquitaire chez tous les animaux vivants, au moins ceux qui ont un cerveau. C'est évidemment une subconscience, si vous me permettez, qui est extrêmement rudimentaire chez des animaux très primitifs, comme des insectes, par exemple, ou comme des reptiles. Petite parenthèse, ça ne les a pas empêchés de vivre depuis plusieurs centaines de millions d'années. Je parle sous le contrôle du professeur Philippe Taquet. Mais chez Homo sapiens, chez nous, Homo sapiens sapiens, la prise en considération de cette faculté de subconscience est aussi essentielle. Non seulement elle est permanente, non seulement elle est ubiquitaire, mais elle nous permet d'apprécier la personnalité de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que le comportement moteur automatique qui est le mien exprime, reflète des émotions et des pensées. C'est donc un reflet de ma personnalité. Exemple, je suis en consultation. Un malade entre dans le cabinet de consultation. J'observe soigneusement comme il se lève, comme il entre, comme il ouvre la porte, comme il marche, sa gestualité, la prosodie de son langage. J'observe surtout son visage, dont je sais qu'il comporte une cinquantaine de muscles qui vont exprimer une grande quantité de micro-expressions. Le visage, ce n'est pas comme les pieds. Tout se lit sur un visage, même le mensonge. Par conséquent, cette subconscience permanente, ubiquitaire et qui reflète notre personnalité, elle est bien issue du cerveau. Alors, vous me direz, mais quelles aires cérébrales dans ce cerveau ou dans ce système nerveux ? Vous serez d'accord avec moi qu'il est difficile d'imaginer que les muscles, les nerfs, la moelle épinière, jouent un rôle dans la genèse et le contrôle de cette faculté de subconscience. Il faut probablement monter plus haut vers le cerveau. Le cerveau, cette espèce de glande gélatineuse qui fait un peu moins de 3 livres, comporte un grand nombre de systèmes de neurones, de structures, mais il y en a deux qui sont essentiels. Pardonnez la simplification. D'abord, le cortex cérébral, qui est cette enveloppe qui se trouve à la périphérie de notre cerveau, 3 mm d'épaisseur, plissée, mais étalée sur une table, ça fait presque 1 mètre carré, et qui comprend à peu près un quart des neurones du cerveau, un quart. Ce cortex cérébral est apparu très tard dans l'évolution, notamment dans sa partie antérieure frontale. Tous différents sont les noyaux gris centraux, très primitifs dans l'évolution, très primitifs. Ils portent bien leur nom, ces noyaux gris centraux, sont des petits noyaux, 1/50 du poids du cerveau, très différent du cortex. Ils sont faits de substances grises, d'où leur nom de gris. Ils sont centraux, au centre du cerveau. « The dark basement of the brain », disait Kinnear Wilson. Eh bien, à quoi servent ces deux structures ? Il y a un grand nombre de travaux, surtout au cours des 30 dernières années, de travaux expérimentaux, qui ont montré à quoi servait le cortex cérébral et les noyaux gris centraux. Mais pour simplifier, permettez-moi d'avoir recours à la pathologie. Une maladie d'Alzheimer, une maladie de Parkinson. Dans la maladie d'Alzheimer, les patients perdent progressivement la mémoire. Mais la maladie d'Alzheimer est surtout caractérisée par un rétrécissement progressif du champ de préconscience et surtout du champ de conscience. Alors que, à l'inverse, les mouvements automatiques, la marche, manger, se tourner, balancer les bras, tout ça est normal. Les comportements moteurs automatiques sont préservés. Or, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer ? Le cortex cérébral est malade, mais les noyaux gris centraux sont respectés. Ceci suggère, mais ne démontre pas, que les noyaux gris centraux jouent un rôle essentiel dans le traitement des informations motrices automatiques. La maladie de Parkinson, c'est en quelque sorte l'image inverse de la maladie d'Alzheimer. Dans ce cas-là, les patients ont des fonctions mentales de préconscience, de conscience, qui sont épargnées. En revanche, les comportements moteurs automatiques, subconscients, sont extrêmement gênés, si bien que le malade, d'ailleurs, est obligé de compenser par la volonté. C'est ce que disait Jean-Martin Charcot, le parkinsonien est condamné au mouvement volontaire à perpétuité. Eh bien, ces comportements, ces deux histoires médicales vous laissent entendre que, en effet, le cortex cérébral joue probablement un rôle dans le traitement des informations conscientes, disons, alors que ces petits noyaux gris centraux, 1/50 du poids du cerveau, jouent un rôle probablement plus important dans le traitement des informations motrices automatiques, tous les comportements moteurs automatiques. Et les fonctions émotionnelles et les fonctions intellectuelles, direz-vous ? Ah, mais oui, les noyaux gris centraux jouent un rôle non seulement dans la motricité, mais aussi dans les émotions et dans l'intellect. Sur le plan moteur, il y a plusieurs expériences que je ne détaillerai pas qui montrent deux choses essentielles. Premièrement, les noyaux gris centraux, les tout petits noyaux gris centraux, sont responsables de l'exécution de la motricité automatique, 1980. La deuxième chose, les noyaux gris centraux sont responsables de nos apprentissages, c'est-à-dire que tout ce qui est nouveau suppose un traitement très compliqué dans le cortex cérébral, mais à partir du moment où ce qui est nouveau devient des routines, après des essais, des erreurs, c'est les noyaux gris centraux qui s'en occupent. C'est ainsi que le bébé apprend à marcher. C'est comme ça que l'enfant apprend à faire de la bicyclette. C'est comme ça que l'adolescent apprend à jouer au tennis. Donc, noyaux gris centraux, contrôle, genèse de l'ensemble, essentiellement de manière prééminente, je simplifie à l'extrême, pardonnez-moi, dans les comportements automatiques. Moteur. Mais je disais, aussi les émotions, aussi l'intellect. Comment le prouver ? Il y a plusieurs travaux expérimentaux qui vont dans ce sens, mais pour simplifier, permettez-moi de me concentrer essentiellement sur l'homme. Lorsque vous voulez montrer qu'un ensemble de structures cérébrales, comme les noyaux gris centraux, joue un rôle dans les émotions, dans le contrôle des émotions, le contrôle de l'intellect, qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est tout l'intérêt de la recherche clinique. Eh bien, vous pouvez faire deux choses. La première, c'est d'utiliser la neuroimagerie. La deuxième, c'est d'essayer de profiter d'études cliniques pour manipuler, je vais vous dire comment, les structures qui sont hypothétiquement impliquées dans ces émotions. Neuroimagerie, c'est l'IRM cérébral. Vous mettez quelqu'un dans un appareil d'IRM, et ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, et si vous présentez à cette personne par exemple, des images désagréables ou au contraire des images agréables, vous allez regarder ce qui s'active, quelles sont les aires cérébrales qui s'activent, quelles sont celles qui s'inhibent dans le cerveau. Eh bien, qu'est-ce qui s'active pour des émotions aussi subtiles que l'esthétique, par exemple, ou l'amour ? Moi, j'aurais parié que ce serait le cortex cérébral dans les territoires les plus émotionnels, ceux dont on sait qu'ils sont impliqués dans l'émotion. Mais non. Ce qui s'active quand vous êtes amoureux, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, c'est les noyaux gris centraux. Et c'est les noyaux gris centraux, non pas dans leur partie motrice, non pas dans leur partie, entre guillemets, intellectuelle, dans la partie émotionnelle, c'est ce qu'on appelle les circuits limbiques. On aurait pu y penser, d'ailleurs. Pour ceux qui ont déjà vu des pigeons qui s'aiment d'amour tendre, eh bien, il faut savoir que ces pigeons, ils n'ont pratiquement pas de cortex cérébral, notamment frontal. Mais ils ont des noyaux gris centraux comme ça. Encore fallait-il y penser. Mais si vous avez des images sur d'IRM d'activation et d'inhibition, vous pouvez suggérer quelque chose, mais corrélation n'est pas démonstration. Donc il faut adopter l'attitude inverse maintenant, que ces territoires émotionnels des petits noyaux gris centraux semblent activés à l'occasion d'une émotion. Il faut essayer de manipuler ces territoires émotionnels et noyaux gris centraux et voir si vous pouvez reproduire ces comportements émotionnels. Et en effet, c'est possible. C'est possible chez l'homme. L'école de la Salpêtrière a été très connue pour ça, à la fin du XIXe siècle, pendant tout le XXe siècle. L'observation de cas de troubles psychiatriques, de troubles émotionnels anormaux, chez des patients examinés in vivo, l'examen de leur cerveau sur matériel d'autopsie, a permis de reconnaître, bien souvent, des lésions des noyaux gris centraux, des abcès, des tumeurs, des infarctus, des choses comme ça. Ceci suggère, en effet, que les noyaux gris centraux jouent un rôle dans des émotions anormales, leur dysfonctionnement. Mais, évidemment, ces travaux manquent de spécificité, d'autant qu'ils sont rétrospectifs. D'où l'intérêt de faire des travaux prospectifs qui sont possibles. Il est possible de manipuler ces territoires dans des conditions expérimentales. Mais ce n'est pas toujours facile, parce que les boîtes de Pétri, et les petits animaux ne peuvent exprimer leur vécu. Et les hommes, eux, le peuvent. Et c'est le succès de ce qui s'est passé au cours, disons, des 10-15 dernières années avec la neurochirurgie fonctionnelle dans les maladies psychiatriques. C'est le secret, c'est le succès de la stimulation des structures cérébrales profondes qui ont été notamment mis au point ici par le professeur Alim Benhamid, qui est un de nos confrères, qui consiste à stimuler à l'aide d'électrodes qu'on introduit dans le cerveau, dans la profondeur du cerveau, de manière extrêmement précise, électrodes qui génèrent un petit courant électrique qui inhibe les structures au sein du cerveau, à l'aide d'un fil électrique qui court sur la peau et simplement une pile qu'on met sous la clavicule, un peu comme pour les pacemakers cardiaques. D'ailleurs, c'est les mêmes piles. Utilisant cette technique, des succès considérables ont été obtenus dans le traitement de certaines maladies du mouvement. Je suis sûr que vous êtes absolument tous au courant que la stimulation des structures cérébrales profondes améliore de manière spectaculaire un petit nombre, malheureusement, mais de maladies de Parkinson ou de malades qui ont des dystonies. La dystonie, c'est des mouvements comme ça. Bien. Mais lors de ces opérations qui se font chez des sujets éveillés, il est arrivé, en essayant de trouver des paramètres de stimulation adéquates, parce qu'on fait des petits essais au cours de l'intervention chirurgicale, avant de placer définitivement les électrodes, d'obtenir des effets secondaires psychiatriques tout à fait étonnants. Des troubles émotionnels anormaux, je préfère dire. Par exemple, des états d'euphorie transitoires. Par exemple, une dépression aiguë transitoire, bien entendu transitoire, parce qu'aussitôt, on arrête ce type de stimulation. Cette technique peut être utilisée avec succès, c'est de la neurochirurgie, mais je vous rappelle tout de même une chose, c'est que c'est une méthode qui est réversible, on peut retirer les électrodes, c'est une méthode qui est adaptable, comme un médicament, il suffit de modifier le courant, et il n'y a pas de destruction tissulaire. Eh bien, dans ces cas-là, comme nous avions observé ces cas très curieux, ces effets secondaires indésirables, il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années, certains d'entre nous se sont dit il faudrait peut-être essayer d'utiliser la méthode pour traiter des maladies psychiatriques. Vous imaginez faire de la psychochirurgie à nouveau ? Donc plusieurs, en particulier dans notre laboratoire, plusieurs travaux ont été faits chez l'animal pour essayer de répondre à cette question. Et on a en effet répondu à cette question, et du coup, la méthode de stimulation des structures cérébrales profondes a été utilisée en plaçant des électrodes dans les noyaux gris centraux, les petites structures au milieu du cerveau, dans le territoire émotionnel de ces petits noyaux gris centraux, avec des succès considérables pour traiter certaines maladies psychiatriques, ou neuropsychiatriques, je préfère dire, comme la maladie de Gilles de la Tourette, par exemple. Ce sont des grands tiqueurs, des grands tiques comme ça, et beaucoup d'entre nous ont des tiques, j'en ai reparlé quelques-uns déjà. Mais c'est des petits tiques, c'est rien. Là, je parle de maladies épouvantables, de gens qui sont des hôpitaux psychiatriques, qui ont envie de se tuer. Aussi, des résultats très intéressants dans certains cas de dépression sévère au-dessus de résistante à toute thérapeutique, et surtout dans les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Je ne parle pas, mesdames, messieurs, des petites anxiétés, des petites dépressions qui sont les nôtres. Non, je parle de malades qui n'ont plus envie de vivre, tellement ils ont d'obsessions, de vérifications, de doutes, de propreté, avec les compulsions qui s'en suivent, c'est-à-dire de lavage de mains. J'ai vu des malades qui se lavaient les mains toute la journée, avec les bras en sang. Dans ces cas, des résultats tout à fait spectaculaires ont été obtenus à l'aide de cette technique. Et bien entendu, on est encore du domaine de la recherche. Pourquoi je raconte tout ça ? Je raconte tout cela simplement pour illustrer le fait que ces petites structures délaissées, anciennes, dévoyées quasiment, que sont les noyaux gris centraux, jouent un rôle dans la gestion des comportements moteurs automatiques, mais aussi des émotions et de l'intellect. Quel est le message que je voudrais adresser ? Ici. Ce message est double. Premier message, il existe une subconscience normale, permanente, ubiquitaire, reflet de la personnalité, qui assure les comportements moteurs automatiques, mais qui assure aussi la gestion des émotions et de l'intellect de façon automatique. Et cette subconscience normale est gérée par les structures les plus anciennes, phylogénétiquement parlant, de notre cerveau, les noyaux gris centraux. Premier message. Deuxième message, la subconscience peut être malade. Il s'agit de comportements moteurs anormaux, ce que nous appelons entre nous les mouvements anormaux involontaires, Parkinson, chorée, tic, tremblement, dystonie, myoclonie, hémibalisme, mais aussi de troubles émotionnels et de troubles intellectuels involontaires. Mais voyez, mesdames, messieurs, que quand je parle de troubles émotionnels automatiques, c'est tout le champ de la psychiatrie. Par conséquent, ce que je voudrais dire en finale se résume à ceci. Il est probable que ces petites structures, les noyaux gris centraux, notamment dans les territoires entre guillemets intellectuels et les territoires émotionnels, jouent un rôle, quand ils sont dysfonctionnants, un rôle considérable dans la genèse d'un certain nombre de désordres psychiatriques. Et j'inviterai les chercheurs de nos institutions publiques et les chercheurs de l'industrie pharmaceutique à prendre cela en compte pour essayer de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Monsieur le chancelier, madame, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, mes chers confrères, mesdames, messieurs, j'espère vous avoir un peu convaincu et je vous remercie pour votre patience.
Vous venez d'écouter un discours d'Yves Agide, membre de l'Académie des sciences, intitulé « Subconscience et cerveau ». Ce discours a été prononcé le mardi 16 octobre 2012 sous la coupole de l'Institut de France lors de la première séance solennelle de remise des prix 2012 de l'Académie des sciences. À bientôt sur Canal Académie.